C'est l'artichaut.
Artichaut, le moment où on parle d'art.
Personnellement, j'adore l'artichaut. Cette émission qui parle d'art.
RDWA Radio, www.rdwa.fr.
Bonjour à vous, toujours à l'écoute de RDWA 107.501.7. Il est 20h, c'est le début du mois de mai. Un nouveau mois qui commence avec plein de nouveaux artistes à vous proposer comme chaque vendredi soir pendant l'émission Artichaut, co-animée avec Carotte. Bonsoir à toi.
Malo. J'adore t'écouter, on dirait une hôtesse de l'air, ou enfin d'un coup c'est spécialisé, j'adore ta voix.
C'est vrai ?
Oui, donc on continue avec Dada, toujours Dada, et le mouvement surréaliste, enfin le mouvement, oui, enfin cette inspiration géniale des artistes européens. Et donc là, aujourd'hui, on va faire Max Ernst et on va commencer par une poésie parce que, comme je l'ai dit la dernière fois dans l'émission consacrée au Dada, bah, la poésie, c'est l'âme de l'art et c'est le meilleur lien aussi avec les anges, quoi.
Alors, est-ce qu'on pourrait faire un petit essai créatif de genre, je te mets une petite mélodie sans parole et tout et puis tu nous poses la petite poésie dessus
Absolument.
Ça te dit ? Allez. Je vais faire un peu au feeling comme ça. Je cherche une petite musique instrumentale sur mon ordinateur. Je la pose et puis on va se laisser porter pour ce début de soirée sur une musique plutôt calme, relaxante, tout ça. Bon, allez, on essaye.
Dévoré par les plumes et soumis à la mer, il a laissé passer son ombre dans le vol des oiseaux de la liberté. Il a laissé la rampe à ceux qui tombent sous la pluie. Il a laissé leur toit à tous ceux qui se vérifient. Son corps était en ordre. Le corps des autres est venu disperser cette ordonnance qu'il tenait de la première empreinte de son sang sur terre. Ses yeux sont dans un mur. Et son visage et sa lourde parure. Un mensonge de plus du jour, une nuit de plus, et il n'y a plus d'aveugle.
J'adore cette manière de commencer cette émission. Merci beaucoup pour ce petit moment poétique. En hommage au dadaïsme et à Max.
C'est un temps très calme pour quand même un mouvement qui était tonitruant et dévastateur. Alors aujourd'hui, donc Maximilien Ernst, qui est né le 2 avril 1891 à Brühl, près de Cologne. Alors le destin l'a fait grandir dans un monde à la fois étrange et onirique parce que son père, Philippe Ernst, est enseignant en fait dans une école pour sourds qui est sur les bords du Rhin. Et du coup, Max, un petit frère et une sœur vont grandir dans le silence. Leur petite école est entourée d'un grand bois très sombre dont les grands arbres avec des racines puissantes s'entrelacent pour former des dessins toujours très étranges sur le sol quand le soleil arrive à percer le feuillage très dense. Donc le père est renfermé, c'est un père un peu autiste, silencieux, qui consacre tout son temps libre à la peinture et au dessin. Et du coup, ben, ça devient vite une habitude pour Max dès qu'il est tout petit, parce que les seuls moments qu'il a pour partager un peu d'intimité avec son père, c'est de s'asseoir à côté de lui et puis de dessiner et de peindre à côté de lui. Donc du coup, ben, on a affaire un peu comme un genre de petit Mozart, parce qu'enfant tout petit, il a déjà un genre de perfection qui lui permet facilement de copier des toiles du 19e. Mais à ce moment-là, il songe guère à devenir un artiste, en fait, il n'y pense pas. Donc, dans son univers littéraire, ben, il adore les contes allemands, les frères Grimm, Auf, Hoffmann. Et il aime aussi bien les romans d'aventure, comme ceux de Fenimer Cooper ou de Jules Verne. Il connaît les collections des musées de Cologne, parce que son père l'emmène voir des musées très souvent. Et il adore les petites fantaisies des maîtres du XIVe et du XVe siècle. Il aime également la poésie romantique. Et d'ailleurs, dès enfant, il compose aussi de la poésie et des vers. Donc, comme il est doué un petit peu pour tout, qu'il touche à tout et qu'il est bon en tout, sa famille aurait bien voulu en faire un médecin ou un avocat. Mais en fait, ce qui va l'intéresser, c'est d'abord des études de philo à Bonn et ensuite des études de médecine parce qu'en fait, il rêve de se spécialiser en psychiatrie. Et du coup, en fait, dans ce cadre-là, de l'intérêt pour la psychiatrie, il va faire un stage dans un hôpital psychiatrique et il va trouver les travaux plastiques des malades qui sont considérés par le corps médical comme absurdes et délirants. Ben, lui, il va carrément les trouver fantastiques. Et du coup, il va se passionner super tôt pour des compositions picturales qui sont dédiées au monde de l'irrationnel, du subconscient, du rêve. Vers 20 ans, il va rencontrer et fréquenter des artistes. Et c'est là qu'avec Auguste Mack, qui est peintre et poète et qui a une énorme culture. C'est un gars, en fait, Auguste, il entraîne les jeunes dans l'avant-garde européenne, il leur montre des trucs que personne n'a encore vu, il a des liens, il a un super réseau. Et du coup, il est aussi en contact avec Kandinsky, à la fois Auguste et à la fois Maximilien, au moment du Cavalier Bleu, Der Blaue Reiter, dont on a parlé dans l'épisode deux fois avant. Donc, il avait comme ami des personnes très étranges, comme par exemple Franz Hanseler, qui était un médium et qui faisait à ce moment-là en Allemagne, à Cologne, des séances de médium et d'hypnose, comme celles que faisait en même temps Robert Desnos à Paris. Il avait donc un copain, Karl Otten, qui d'ailleurs avait étudié à Vienne directement chez Sigmund Freud et qui lui essayait de...
J'allais parler de Freud, bah justement, oui, bah, je pensais à lui quand
on... Donc du coup, les gars, ce fameux Karl Otten, il essaye de contaminer tout le groupe à la passion des rêves, les morts, la communication avec les mondes invisibles, enfin voilà, les liens, les ponts. Donc, ensemble, ils décident d'abord de former un groupe qui va s'appeler la Jeune Rhénanie. Et ils vont bientôt être rejoints par un gars qui s'appelle Kapendonk et un autre gars qui s'appelle Noen, qui avait été surnommé le Matisse de la Rhénanie. Donc, moi, je ne les connais pas, mais voilà, le Matisse de la Rhénanie. Donc, on voit à peu près de quel type d'art on est en train de parler. Et tout est prêt pour l'arrivée de notre dada à Cologne, donc qui, je le rappelle, est né à Zurich en 1916. Donc là, on se retrouve devant une expo. Donc la première expo un petit peu, qui leur ont fait découvrir leurs parents. Donc elle date de 1911, elle s'est appelée la Sonderbund et elle montrait les toiles donc, de Cézanne, de Van Gogh, de Gauguin, de Munch et de Picasso. Et c'est en voyant le boulot de Picasso que Maximilien, enfin notre célèbre Max Ernst, décide qu'il va devenir un artiste. Parce que là, il est vraiment subjugué par Picasso, qui trouve est le pur visionnaire de son temps et qui va ouvrir les portes vers un art et une façon de faire encore complètement insoupçonnée. Donc, en 1913, il est encore petit, il a sa première expo à Berlin. Et c'est là, à l'occasion d'un petit voyage à Paris, enfin d'un beau super voyage à Paris, qu'il va rencontrer Jean Harpe, qui fera le sujet de notre prochain artichaut. Donc là, on est en 13. Franchement, il y a une émulation, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, il va se passer des choses. Et ben oui, bing, bing, bang, boum, c'est la guerre de 14. Et le rêve, en fait, dont il était question, se transforme en cauchemar, cette fois-ci bien réel. Donc, notre petit Maximilien, il va passer 2 années dans l'infanterie où il va vivre un véritable enfer. Vraiment, il sera au plus proche des massacres et de la boucherie de 14. Et puis, sûrement parce qu'il est blessé, il va finir au service des cartes où là, il va avoir une fin de service quand même dans les bureaux moins pénibles et beaucoup plus cool. Et 1 mois avant la fin de la guerre, il va épouser Louise Strauss, dite Lou.
Vous êtes bien sur Radio Diwan.
Chers auditeurs, on y va, c'est le moment music on RT Show. C'était une belle découverte, on est bien contents. Et du coup, on retourne dans cette histoire de Max Ernst. C'était le titre de cette chanson, c'est le titre de cet épisode, c'est l'artiste de cet épisode. Donc voilà, je crois qu'on s'était arrêté au moment où il y avait sa fiancée.
Voilà, juste avant la fin de la guerre, il épouse Lou, qu'il a rencontré d'ailleurs là-bas. Donc il y a plein de leurs amis d'avant-guerre qui vont mourir au front, mais ça ne va pas empêcher à Cologne d'avoir une émergence d'une nouvelle génération d'artistes. Et il y a un gars qui va devenir son very best friend à Maximilien. Il s'appelle Alfred Grunewald. On le connaît mieux sous le nom de Bargeld et il devient son meilleur pote, comme je l'ai dit. Donc lui, il s'inspire des idées de la révolution et de la vie sociale et il le rajoute à son art. Et il a une très belle et très forte énergie qui va aider Max à trouver sa voie dans ce monde un peu traumatisant de l'après-guerre. Et ce qui va se passer, c'est qu'un beau jour, il y a une bande d'anarchistes à Cologne qui propose à Max de s'aborder un spectacle vivant militariste qui s'intitule « Le jeune roi ». Et du coup, ils mettent super bien au point un genre de stratégie de manifestation où chaque participant connaît sa partition et a des répliques. Et c'est comme un petit spectacle d'annulation d'un autre spectacle. Et c'est en fait un succès qui provoque un immense scandale, l'arrivée de la police et tout, blablabla. Mais du coup, ça fait le buzz. Et ça, il va s'en suivre deux conséquences. Max Ernst va être viré du petit groupe qu'il avait monté, la jeune Rhénanie. Et il va partir pour Munich. Donc, il part pour Munich. Là, il découvre les écrits d'Ada de Zurich. Donc, on est tout juste en 19. Il découvre aussi une revue italienne du même acabit qui s'appelle Valori Plastici et qui comprend des reproductions de toiles de Giorgio de Chirico. Et du coup, il tombe amoureux aussi de son boulot. Et il commence à s'intéresser à d'autres formes de reproduction, style comme la lithographie. Et bref, avec son copain, il décide de monter une espèce de base de la nouvelle esthétique. Et avec Harp, qui est arrivé les rejoindre, et Bargeld, ils vont créer un genre de langage, enfin quelque chose, ça s'appelle les Fata Gaga. Alors bon, ça c'est pur dada quoi, c'est-à-dire encore on parle de quelque chose qui ne veut rien dire. voilà, c'est les supports de leur création. Et en fait, c'est une façon de montrer leur rébellion contre l'art bourgeois. Donc ils s'organisent eux-mêmes une petite exposition qui va s'appeler Dada Ausstellung dans l'arrière-cour d'une petite taverne. Et ça se passe donc en 1920. Et en fait, c'est déjà fou parce que pour arriver à voir les tableaux, il faut passer par les toilettes et en fait, il faut visiter les urinoirs de la taverne. On rentre d'abord par les toilettes, faisant des urinoirs, des œuvres d'art. Et donc, pour ce spectacle, donc, ils étaient accueillis par une petite fille qui portait une aube. Donc catholique et qui lisait des vers indécents et pornographiques. Et Max Ernst, il avait posé au milieu de la cour un truc en bois qui ressemblait à un chevalet et auquel était accrochée une hache. Et donc, il invitait les gens à venir massacrer le chevalet à coups de hache.
Alors Thérèse, s'il vous plaît, n'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, mais plutôt, si vous voulez, comment dire, la recherche créative, le délire de l'artiste.
Ça va beaucoup marquer les esprits et les spectateurs qui vont être là. C'est comme un happening et franchement, c'est très indécent et c'est très underground, quoi. Et c'est complètement révolutionnaire parce que ça s'est encore jamais vraiment fait. Donc du coup, c'est à cette époque aussi que Max Ernst, il va commencer à pratiquer l'art du collage. Et il s'est inspiré des collages de Picasso et des cubistes. Pour faire, donc, je veux dire, les cubistes et Picasso, ils voulaient faire des œuvres uniquement plastiques et ou dans laquelle il y avait du cubisme et donc du volume, dans lequel le volume intéressait l'artiste. Que lui, il veut faire quelque chose d'absurde, de spontané, qui est réalisé dans un temps donné avec tout le merdier qu'il a sous les mains, en fait, tu vois. Donc, c'est une œuvre de sublimation, comment dire,
spontanée.
Spontanée, ouais, et dans un temps précis. Donc, hop, il se met autour de lui tout un tas de documents qu'il va pouvoir utiliser. Et toc, ça y est, une bonne musique, du dada rock, si tu veux, du dada ska, ou du dada blues, ou du dada foxtrot. Et le voilà parti pour faire de la peinture, du collage spontané, des œuvres spontanées. En utilisant pour base du travail qui n'est pas du tout à lui et qui peut tout aussi bien être des bouts de toile que des morceaux de photos. Alors, pour en revenir à son univers onirique et de rêve, ce qu'on retient de Max Ernst, c'est la symbolique de l'oiseau. Ça va te plaire parce que t'aimes bien les oiseaux et t'aimes bien ce côté-ci, partir, revenir.
Ouais, ça voyage, oui, mais je suis pas trop à l'aise avec les oiseaux. Les petits.
Donc, dans l'univers pictural de Max Ernst, les oiseaux jouent un rôle majeur. Donc, des fois, il y a un petit rossignol inoffensif qui est représenté sous une forme qui sort d'un tronc ou il a une pique à la main. Ou parfois, c'est un oiseau bizarroïde qui va semer la terreur et la panique chez les êtres humains. On va en voir dans les fourrés ou dans des contours des personnages. Et il y a toujours donc cet étrange oiseau qui va suivre toute sa vie ce peintre comme un genre d'obsession. Et donc, il raconte dans les interviews qu'en fait, quand il était petit, il avait un perroquet rose. Et malheureusement, le perroquet arriva au bout de sa vie et il le retrouva un matin mort dans sa cage. Et c'est à ce moment précis qu'on lui apprend la naissance de sa petite sœur Apollona, Loni. Et donc, le choc fut si intense pour le jeune Max, qui avait quand même une quinzaine d'années.
Ascenseur émotionnel. Ouais. Gros deuil et gros joie d'un coup.
Exactement. Et il paraît que donc il a perdu connaissance et qu'à son réveil, l'oiseau pour lui est devenu sa mystique, comme son animal totem.
C'est un peu comme le phénix, ça voilà, renaît de ses cendres en fait.
Exactement, pourvu des qualités de la vie et de la mort. Et c'est pour ça qu'on le retrouve toujours dans ses œuvres.
On aurait dû mettre une chanson sur les oiseaux.
Ben tu vas la trouver, je te fais confiance pour ça.
L'oiseau.
Et donc cet oiseau, il va l'appeler le lop-lop, supérieur des oiseaux. Et donc, c'est un nom plutôt joyeux qui renferme une certaine note d'ironie et qui, évidemment, rappelle Dada. Donc, le dessin de Lop Lop devient de plus en plus parfait, assez laconique, assez graphique. Et ça finit par ressembler à sa formule, comme une formule mathématique ou un genre d'équation. Et quand il y a eu une organisation d'une expo à New York, donc ça, beaucoup plus proche de nous, dans les années 84, même d'ailleurs en 1984, et qui s'est appelée « Le primitivisme dans l'art du XXe siècle », donc il y avait ces fameuses le lop-lop d'étoiles d'Ernst et ça a fait penser à tout le monde aux pétroglyphes des îles de Pâques. Et en fait, la ressemblance était foudroyante et ça donnait vraiment l'impression que Ernst, il avait déjà pris pour exemple les dessins des aborigènes d'Océanie. Alors que la pierre, elle a été trouvée juste en 1914 et elle représentait déjà un oiseau que les habitants de l'île considéraient comme un dieu. Donc les pétroglyphes qui furent publiés en 1919 dans un livre intitulé « Secrets de l'île orientale », donc là on a affaire à des découvertes qui ont lieu vraiment juste avant la guerre de 14, et donc on se dit que Ernst, il a dû avoir forcément connaissance de cet ouvrage, il aurait d'ailleurs pu le consulter en Allemagne aussi bien qu'à Paris, mais il a pu aussi très bien arriver à la schématisation de l'oiseau par lui-même, comme l'avaient dû le faire avant lui les habitants de l'île de Pâques. Quoi. Enfin, du coup, c'est assez merveilleux ce lien, qui est un lien dans son destin de vie et qui est un lien qui le connecte avec les primitifs de l'autre bout du monde. Donc ça, c'est aussi la force de Dada et du surréalisme, c'est que ça n'a ni espace ni temps. Donc, ce qu'ils veulent mettre en avant, c'est un genre de langage qui soit concis et percutant. Et du coup, on cherche à travers le langage artistique à choper, à happer la conscience des contemporains. Et il faut à la fois donc un peu de naturalisme pour que les gens y voient un peu ce que ça représente et aussi une grande part de secret, en fait. Et sa peinture se concentre sur ces aspects-là, l'aspect de la nature ancienne et de la sacralisation. Donc c'est très beau et les gens comme nous qui sont un peu bio, enfin très sensibles à Gaïa, la nature et respectueux de leur environnement, seront nécessairement touchés par le travail de Max Ernst qui est très féminin, hypersensible et quelque part aussi visionnaire. Il a une vue universelle et globale dans sa forme de symbolisme. Donc voilà, c'est merveilleux. je vais vous citer quand même juste une petite phrase qu'il a dite. Donc, nous avions tous la rage au cœur à l'idée de sacrifier nos vies magnifiques, de gré ou de force, pour trois fois rien. Dieu, l'empereur, la patrie, écrivit plus tard Ernst, nous avions aussi la sombre certitude que la catastrophe mettait fin à notre jeunesse, à nos joies et à nos amours. Donc, j'espère très fort que tout ceci ne nous arrivera pas, jamais. Et je vous invite à goûter la joie de la liberté qu'offrent les collages, puisque là, il y a juste besoin d'avoir une paire de ciseaux et plein de documents à sa disposition pour sortir quelque chose de beau, sans avoir jamais à faire un dessin ou un trait de crayon. Donc, comme on l'a vu dans son enfance, ce n'est pas du tout par souci de facilité que Ernst s'est adonné à cet exercice, mais bien plutôt pour faire appel à son subconscient et laisser aller ses rêveries comme un enfant, sans aucune barrière ni frontière entre le réel et l'irréel. Et donc voilà, c'est des exercices de plastique qui sont très faciles à mettre en ordre, enfin à mettre en place chez soi, et en plus pour se débarrasser pour les gens qui font des tas de documents, de journaux, de photos et qui finissent par pas savoir quoi en faire. Et ben ressortez tout ça, prenez une paire de ciseaux, prenez une feuille blanche et allez-y, amusez-vous à faire des collages. Et il en sort toujours des trucs chouettes. Si t'as devant toi des documents avec des images belles, t'en prends des petits morceaux et tu les colles et t'obtiendras toujours quelque chose qui sera vraiment intéressant et qui peut toi-même te faire rebondir sur tes problématiques, tes obsessions, ton narcissisme, ton arrogance, je ne sais pas. En tout
faudrait
cas,
faudrait créer des petits ateliers de collage à l'EVS comme ça. Bah, c'est simple, accessible à tout le monde. On pourrait dire, bah, venez donc laisser parler votre intuition, inconscient, tout ça, et venez passer un moment avec nous à coller, découper, créer, partager.
Après, je pense que c'est quand même des exercices qui se font dans le temps de l'introspection et de la méditation. C'est vrai qu'on voit le groupe, mais je pense que justement, si on veut faire appel à des choses qui sont cachées profondément en nous, il faut être dans des grands moments d'intimité et de calme. C'est pas des choses qu'on peut... on peut faire des ateliers collage à l'EVS sans problème, mais c'est vraiment des choses beaucoup plus précieuses, personnelles et sacrées qu'il faut faire à sa maison en étant... dans un petit coin où on a allumé une bougie. Enfin voilà, faut se mettre dans l'intention et faut se mettre en résonance un peu avec soi-même. Et je pense que ça, on peut très bien le faire que tout seul, en fait.
Tout à fait, j'entends. Tout à fait. M'a proposé là de participer à ce que j'écris, comme tu le sais. Et je me suis remis là vraiment à beaucoup écrire. J'aimerais bien sortir mon roman et tout. Et on m'a proposé de faire des ateliers d'écriture où on est plusieurs et on se donne des conseils et on travaille. Et j'ai l'impression que c'est la créativité, tout ça, créer des mondes, écrire, c'est tellement des moments qui appartiennent qu'à nous que je me verrais mal exposer tout mon monde et ma fantaisie et mes idées en travail de groupe pour savoir si ça... Enfin, tu vois, genre j'ai l'impression qu'en groupe, du coup, il y aura toujours peut-être une partie de toi qui n'osera pas être pleinement toi.
Ben, je dirais pas le groupe. Enfin, il faut sélectionner les gens du groupe. Il faut choisir le groupe avec les gens qui vont avoir la super bonne écoute, les gens qui ont de la culture, les gens qui vont pouvoir intelligemment te faire remarquer des choses qui sont puissantes et qui vont faire avancer ton écriture ou te permettre de donner des formes précises à ton roman. Oui. C'est parce que de toute façon, une fois que le roman il est imprimé et qu'il est lisible entre toutes les mains pour qui va dépenser quelques sous à la librairie, il est offert à la critique comme
oui,
un tableau fait.
Oui, mais du coup, pour, pendant sa
visiteurs.
Création, je trouve ça super important de garder justement ce truc à toi et après avoir les critiques, comme tu dis, une fois que tu décides d'assumer de faire de l'art, c'est ok, mais pour le processus de création, je trouve ça compliqué d'être freiné par des conseils,
ouais,
aussi bons soient-ils.
Hein. Ouais, ouais. Mais il vaut mieux finir son œuvre à soi, pour soi, et après, bien sûr, écouter les critiques constructives. Et, le regard de l'autre est important, l'écoute de l'autre est importante, et surtout sa capacité de concentration. Moi, ça, c'est plutôt pour ça que je fais appel à la vue extérieure des autres, c'est parce qu'elle me donne un rapport à leur concentration dans le temps. C'est-à-dire là, combien de temps je peux parler de mon travail sans qu'ils aient tous envie de sortir dehors pour se fumer une clope ou que je leur donne soif en parlant trop. Mais voilà, les gens ont des petites capacités de concentration, et du coup dans l'écriture comme dans la peinture comme dans les textes, il faut arriver à sans arrêt les recaptiver toutes les 5-10 minutes, à relancer l'histoire, à les re-happer. Et autant, je pense que dans le temps, on a pu faire de la littérature descriptive, longue, et parce que les gens lisaient un bouquin comme on mange de la soupe, et donc ça pouvait se délecter pendant des heures. Autant aujourd'hui, on est dans un monde rapide, concis, où il faut aller vite. Et du coup, l'écriture vivante d'action un peu plus cinématographique, je pense, doit mieux marcher dans l'esprit des gens d'aujourd'hui, quoi. Bon, après, il y aura toujours des gens comme moi qui adorent prendre leur temps pour lire les trucs et qui n'ont pas peur de lire des gros trucs. Et puis, si ça ne leur plaît pas les 10 premières pages, ce n'est pas pour ça qu'ils ferment nécessairement le bouquin. Ils y reviendront un petit peu plus tard. Parce qu'on a aussi une patience et un respect pour l'auteur qui est derrière ça. Parce qu'on sait combien la création, ça peut être ingrat, long et très difficile. Donc, avant tout, du respect. Et bah c'est avec plaisir, en tout cas, que moi, je m'intéresserai à ton premier roman, Malo. Moi-même, j'ai essayé de m'y coller parce que j'ai une histoire vraiment à la fois horrible, mais dont j'aimerais faire carrément un truc comique, quoi. Mais voilà, j'ai encore du mal. Et le comique aussi par écrit.
Faudrait le faire en BD, le comique par écrit, tu vois.
Je sais pas trop.
J'ai l'impression. Ça doit être dur. Mais déjà, le comique, je trouve que c'est dur aussi de... J'adore le côté dérision,
oui.
Tu vois, mais je trouve ça très compliqué à pratiquer.
Ben, c'est ça. Il faudrait que ce soit un peu au 25e degré. Ben, là, justement, de travailler sur les dadas avec dada, ça libère aussi un peu. Parce que finalement, des formes... comment dire, on travaille peu sur des nouveaux langages. Tu vois, par exemple, Damasio, avec ses bouquins-là, il essaye de créer un nouveau langage écrit. Et qui passe très bien. Mais ça faisait justement longtemps qu'on n'avait pas eu la surprise de découvrir une nouvelle façon de raconter les histoires. Et du coup, il y a toujours de l'espace. Enfin, je ne sais pas, parce qu'on écrit depuis la nuit des temps, enfin, depuis quand même des siècles et des siècles, qu'il ne faut pas continuer
à innover, inventer.
Et à essayer d'innover, absolument.
Ouais, ouais.
Les mots sont riches. Et aussi, moi, j'aime beaucoup l'espéranto. Et les mélanges de toutes les langues. Et d'ailleurs, on voit que, par exemple, le français, qui est une langue de terre d'invasion, et s'est nourri de plein de langues, de mots étrangers, et que ça, c'est valable justement pour tout un tas de mondes. Donc, les mots circulent dans les langues, s'échangent, et du coup, il y a une forme d'espéranto comme ça qui se fait un peu malgré nous. Et j'aimerais bien aussi travailler sur justement l'utilisation de mots différents, parce qu'il y a des mots qui cinglent vraiment mieux en anglais qu'en français, ou qui se font vraiment strictes et rigides en allemand, ou qui chantent et qui suintent comme des mots d'amour en portugais ou en espagnol. Enfin, tu vois, la richesse, par exemple, de toutes les langues européennes ou indo-européennes pourrait à elle seule faire un livre, et où en fait on comprend quand même à demi-mot, parce que quelque part on sait ce que ça veut dire. Voilà, je trouve ça chouette. Bah, en tout cas, c'est bien d'être passé de la peinture à la révolution plastique, à la littérature. Donc, merci pour ça, Malo.
Bah, avec plaisir, merci à toi.
Et merci à vous, chers auditeurs. Merci à la radio Diwa. Merci au Diwa de la main. Merci aux bonnes énergies développées dans cette radio. Merci à l'amour. Merci aux bonnes ondes. Et à la semaine prochaine.
C'est toi qui nous donne des bonnes ondes. Bisous, bisous.
Bisous,
bonne soirée à vous.
Bonne soirée.
À l'écoute de RDOA 107.5 sur 1.7.